Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le 23 septembre. Les élections présidentielles au Cameroun, c'est le 12 octobre prochain. Vous voyez, il ne reste pas beaucoup de temps. Je crois que la campagne officielle va démarrer, je crois, le 27, donc dans quelques jours, 4 jours exactement. Vous écoutez Flash sur le monde d'Élise Bock pour Radio Silence. Toujours dans la lancée de notre, comment on va dire ça, de, c'est pas des commentaires, c'est pas des observations, c'est peut-être des analyses, peut-être des réflexions, bon, je sais pas, disons un descriptif des enjeux de la campagne au Cameroun. La suite aujourd'hui va être, de toute façon, à partir d'aujourd'hui, les deux ou trois, comment on va dire, épisodes qui nous restent vont être assez brefs. C'est la consigne aussi. Bon, non, pas seulement, parce que je crois qu'on a fait le tour de la question sociologique, si on pouvait en faire le tour, et peut-être aussi historique. Là, nous entrons donc dans une autre phase de la campagne qui est, j'avais inauguré déjà la dernière fois en parlant du People's Choice, du People's Choice. Alors, c'était, j'ai pas regardé, mais je me suis souvenu rapidement que, il y avait dans ce People's Choice, au moment où l'étude a été faite par un collectif d'enquêteurs, on va dire comme ça, sociologues, communicants et psychologues, je crois. Il y a dans ce People's Choice deux éléments qui sont intéressants, sinon trois. C'est d'abord le fait que, ça on l'a dit, les gens votent, enfin ça, les penseurs, enfin les enquêteurs, l'ont dit, je préfère les appeler les enquêteurs. Les gens votent comme leurs voisins, comme leur environnement, on va dire ça, l'environnement. L'environnement, ça comprend beaucoup de choses. Ça comprend l'environnement familial, ça comprend l'environnement associatif, tous les lieux en fait que les gens fréquentent de proche en proche. Et j'ai aussi, mais j'ai oublié le nom, là, j'ai pas pensé à ça me vient juste là en flash. Quelqu'un, c'est un sociologue aussi, qui étudiait la question de l'insertion des immigrés et qui parlait des liens forts et des liens faibles. Les liens forts, ce sont ceux qu'on a entretiens avec la communauté, et que le processus d'immigration se faisait en deux étapes. D'abord, les liens communautariste et ensuite les liens avec l'extérieur. Et on avait besoin de ces liens forts dans un premier temps pour passer à la phase de l'insertion, on va dire professionnelle, qui est une phase, c'est pas une phase, c'est un moment, c'est une, comment on va dire, une relation, voilà, qui est plus faible et moins forte qu'avec la communauté. Donc le communautarisme précède l'intégration et c'est pas toujours quelque chose qu'on doit critiquer, mais ça, l'école de Chicago, je crois, l'avait aussi un peu démontré. Qu'est-ce que ça dit, cette histoire de liens forts qui précède les liens faibles, ou plutôt, on a besoin de la force pour aller à l'extérieur. Ça dit que la communication se passe exactement comme les chercheurs de People's Choice avaient dit, the two-step flow of communication. Donc, la communication se déroule en deux étapes. D'abord, une première étape qui serait donc celle où il faut choisir les leaders d'opinion, en quelque sorte. Ça, c'est le step one. Et le step deux, c'est que ces leaders, ce sont ces leaders d'opinion qui vont passer le message dans chaque sphère de vie des gens, des citoyens qui sont appelés à voter. C'est-à-dire, il y a le leader d'opinion au sein de la famille, n'est pas le même que celui au sein du milieu professionnel ou, ou du syndicat, etc. Donc, on a plus, il faut passer nécessairement par les leaders d'opinion parce que ce sont ces leaders d'opinion qui ont les liens forts avec le citoyen et donc ce sont eux, en quelque sorte, qui sont les prescripteurs du vote. Ah, voilà. Donc, ça voulait relativiser un peu. Ça relativisait un peu à ce moment-là le rôle des médias sur le choix des peuples. Bon, depuis, ça a évolué un peu, hein, parce qu'on a vu que les médias étaient obligés, pour répondre à cela, de passer dans la construction d'un narratif imaginaire qui pouvait interpeller les gens par le bas, si vous voyez ce que je veux dire, en activant des mythes, des symboles. Et puis aussi en essayant de les séduire, la question de la séduction. Parce que les leaders d'opinion ne sont pas trop dans la séduction, ils sont dans le réalisme. Voilà. Voter comme ça, parce que les médias ont repris un peu le pouvoir par la suite en faisant de la séduction plus que du réalisme ou du pragmatisme. Dans les leaders d'opinion, ça donne quoi? Ça donne que. En ce moment, vous avez donc depuis cette semaine des acteurs qui se décident déjà pour Monsieur Chiroma, qui, bon, a pris une avance, hein, il est décisive. C'est pas pour rien qu'il était aussi ministre de la Communication, il a appris beaucoup de choses. C'est vrai que la levée en poupe et dont les clientèles commencent à. Oui, les clientèles, les clients. Commence à arriver, on avait dit la démocratie c'est un marché. Bon, les leaders arrivent, moi je vais voter, moi j'ai voté, moi je choisis Chiroma. C'est un peu, comment on va dire, opportuniste parce que quand les candidats ont commencé, vous savez, ils étaient 11, l'opposition c'était déjà trop, personne ne choisissait personne. Voilà. Et puis là tout d'un coup, on attend qu'il y ait un qui se démarque et puis là les soutiens arrivent de partout, hein. Ça vient de tous les partis, y compris même du parti qui était dirigé par un certain monsieur. Monsieur Camteau, dont on disait que c'était le prophète tant attendu, mais une fois qu'on a regardé dans cette histoire-là de two-step flow of communication, on voit très bien que Monsieur Camteau n'avait pas la main, n'avait pas la main, et que les médias ont exagéré sa carrure, voilà, on en a fait un prince, alors que au fond. La question du rejet de ce que M. Camteau représente, c'est-à-dire le peuplement, dû au peuplement, on a vu la force Bamiléké, elle est égale au rejet que les gens nourrissent pour le RDPC. Donc, M. Camteau n'avait vraiment pas de marge, en fait. Et peut-être qu'il le savait, il a fait tout ce qu'il a fait là. M. Camteau, vous savez, c'est le roi de l'esbrouffe. Voilà, il n'est pas un faiseur de roi. C'est le roi de l'esbrouffe. Et pendant longtemps, je ne sais pas pourquoi les médias l'ont monté en épingle, parce qu'il suffisait de regarder après son truc pour voir que ça tenait sur un fil. Monsieur Camteau, c'est quelqu'un qui vend du vent, en fait, si je peux dire ça, parce qu'à partir du moment où il sait très bien qui a ce rejet du peuple Bamléké, qui est son fief électoral. Comme M. Cabral, Libye était le candidat des jeunes, on nous disait cela en l'élection dernière, en 2008, en 2018, le temps passe vite. M. Camteau, il a joué à quoi? Entre-temps, parce que chacun se positionnait, mais lui, il a compris ça avant. Puisqu'il n'a pas été qualifié, il a choisi d'être le rassembleur. Le rassembleur qui va recevoir les gens chez lui. Alors, déjà, c'est très une erreur terrible. Pourquoi il reçoit les gens chez lui en privé au lieu de les recevoir dans un cadre officiel, c'est-à-dire le parti? Ça, c'est son problème. Il a essayé de leur vendre ce qu'il a pu leur vendre là-bas. Et puis, au début, tous les candidats avaient peur, surtout les gros qui courent après le trophée. Et ils se sont soumis un peu au, comment je vais dire ça, au chantage, C'est le maître, je vais dire, c'est un maître chanteur, hein, monsieur Camteau. Alors, le chantage de sa consigne de vote qui ferait ci, le chantage de sa personnalité qui serait ci, personne n'interroge son bilan parce qu'il a été aussi au gouvernement. Le chantage, c'est un maître chanteur et un roi lesbouffe. Au début, les candidats sont allés tous prêter allégeance. Pour quelqu'un qui n'est pas candidat, c'est énorme, vous êtes candidat, vous allez prêcher allégeance à quelqu'un qui n'est pas candidat parce qu'on vous a dit que c'est un faiseur. Bon, c'est pas qu'il avait utilisé l'expression, mais en fait, c'était un faiseur de rien du tout. Il essaie juste de négocier son ralliement. Et c'est pour cela qu'il reçoit les gens chez eux. Voilà la campagne, hein. Ça c'est déjà le marché. Quand Lazarsfeld dit dans le two-step flow of communication, après il ajoute. Lazarsfeld, pardon, c'est le nom qui est le grand. Ils étaient trois, mais son nom est plus lié au People's Choice que les autres. Il ajoute le facteur de ce qu'on appelle, il a parlé des convaincus et des indécis. Alors, ceux qui sont convaincus, effectivement, vous ne pouvez pas les bouger. Ils ont déjà leur parti pris. C'est-à-dire, il y a des gens qui voteront pas RDPC, le parti du pouvoir, là, ils sont convaincus de cela. Il y a des gens qui voteront pas parce qu'ils sont contre les Bamiléké, ils sont convaincus de cela. Voilà. Et vous ne pouvez pas changer les convaincus parce qu'ils ont déjà choisi. Après, vous avez dans cette catégorie des convaincus quand même une classe qu'il avait appelée la classe des intellectuels. Enfin, la classe, pas des intellectuels, j'aime pas ce mot ici, on mélange tous les mots. La classe des gens qui ont un certain niveau d'éducation, voilà. Le niveau d'instruction peut jouer et faire basculer le vote. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est le programme qui décide. Ces personnes qui ont un niveau d'instruction conséquent sont des gens qui sont capables de ils mettent l'esprit critique. Ils ont l'esprit critique. Après, ils peuvent se dire, mais au fond, même si j'étais de ce parti, ce que l'autre propose est convaincant. Donc, finalement, je vais peut-être changer. Donc, c'est peut-être là aussi qu'il y a souvent. Dans l'élection, ça se gagne à la marge. Hein. Ça se gagne à la marge quand il n'y a pas ces gros phénomènes de rejet, comme on a ici, ce que j'ai cité. Alors, pour les candidats restants, il y a donc à convaincre, parce que ce sont ceux qui ont un niveau d'instruction un peu élevé, qui lisent les programmes. Peut-être là, on peut les convaincre, mais moi j'ai dit déjà qu'il n'y a plus le temps pour lire les programmes, c'est trop tard, ça se jouera à la personnalité et à la volonté aussi, parce qu'on verra que M. Issa Tchiroma, il est engagé, quoi. Il y a une volonté nette qui ne trompe pas, et c'est pourquoi aussi peut-être qu'il engrange ses soutiens, des gens qui ont au niveau d'instruction, qui sont des leaders d'opinion dans le two-step flow of communication. Donc lui, il est bon, quoi. Il est vraiment bon dans sa stratégie et toujours dans ce que le People's Choice avait mis en évidence, c'est la question des indécis. Alors, la question des indécis et des abstentionnistes, bien sûr, c'est important parce que souvent, ce sont eux qui font basculer le vote dans une élection normale. Et ici, on n'est pas dans une élection normale. On a déjà des facteurs éliminatoires, comme on a dit, le peuplement bamiléké, comme on a dit, le RDPC. Ça, c'est déjà des facteurs éliminatoires. Sur les 12 candidats qui restaient donc, c'était trop. C'était pas 11, c'était trop. Il y a un qui s'est désisté, on n'en parlait même pas. C'était trop. S'il fallait chercher un candidat de consensus, c'était pas après qu'ils se soient tous déclarés candidats. Il fallait le faire avant, de façon à ce que ce soit les candidats consensus qui se présentent. Donc, c'est trop de candidatures peut nuire à la lisibilité. Du coup, c'est aussi bien parce que du coup, l'avance que Tiroma prend. Elle devient, elle a un effet multiplicateur par rapport au fait qu'il y a trop de gens qui embrouillent un peu la visibilité. Lui, en se projetant comme ça, et comment il s'est projeté là de façon nette ces jours-ci, c'est quelque chose que j'avais pas vu. Enfin, j'ai vu, mais j'ai sous-estimé la dernière fois. C'est le facteur religieux et le facteur. Comment on va dire, la proximité territoriale. c'est-à-dire entre deux régions. J'ai juste fait une analyse en partant des spécificités de chaque région, mais il fallait aussi élargir le topo à l'interrégionalité, comme on parlait d'intercommunalité en France, c'est-à-dire que vous êtes voisins, territoires voisins peuvent concevoir des projets voisins et avoir forcément des affinités aussi parce que il y a ces liens de mariage qui arrivent avec la famille. Et donc, il a fait quelque chose d'extraordinaire comprenant ce facteur religieux puisque l'Est, la région de l'Est et la région du Mbami Kim restaient, surtout l'Est, hein, l'Est restait comme ça, on ne savait pas trop ce qu'il pensait. Il y est allé. Alors, c'est formidable parce que il a reçu un accueil incroyable. Il y avait un monde de fou. On dirait un concert de Johnny Hallyday. C'était une marée humaine qui allait l'attendre parce qu'on s'est dit, joue l'Est, c'est des territoires, c'est loin, c'est petit. On a oublié que l'Est avait une très forte natalité. Comme le Grand Nord, ils sont dans les limitrophes. En fait, le Grand Nord a une très bonne carte à jouer. D'un côté, il est placé, quand vous venez du Grand Nord pour la capitale, par la route, parce que je suis allé une fois, dans le sens inverse, par le Grand Nord. Hein. Moi, je suis allé à Bafoussam, de Bafoussam, j'étais avec un ami qui connaissait bien la région, on m'a fait découvrir de Bafoussam. Nous sommes allés. Nous avons été à Foumban, il fallait absolument que je voie Foumban, puisque c'est un sultanat dont on ne parle pas beaucoup d'ailleurs. Et alors que M. Bello Bouba était. C'est une région fortement touristique, le sultanat, Foumban, c'est un grand sultan. Il y a une histoire de l'art africain qui est impressionnante. C'est très très beau. Et puis, il y a une histoire, le sultanat, on ne connaît pas trop, c'est la ville, sa capitale, c'est Foumban. C'est pour cela que l'opposition, son premier rendez-vous à la recherche d'un candidat consensuel, c'était à Foumban, justement, en raison de cette symbolique qui n'a pas été bien comprise ni expliquée. Alors, vous arrivez à Bafoussam, vous arrivez à Foumban, vous allez à Foumbot, parce qu'à Foumbot, ils cultivent beaucoup de tomates. Je voulais voir ça. Et puis, de là à Foumbot, vous voyez donc cette nationale qui part comme ça, et on vous dit que plus loin là-bas, c'est le Grand Nord. Et c'est par là que passent les grands camions qui ramènent des oignons, parce que le Grand Nord, c'est là où on cultive les oignons. Les oignons arrivent, que le Cameroun consomme, et descendent par cette route-là. Vous voyez, donc, ils arrivent à Foumbot, et Foumbot, c'est le territoire des Bamoun. Ça, j'ai oublié aussi dans la région, vous voyez, donc le vote se complique, pas se complique, il se ramifie. Vous avez les Bamoun, vous avez. Donc, on arrive à la région de l'Ouest. Vous entrez par les Bamoun, puis vous entrez par. Vous arrivez à Bafoussam, c'est les Bamiléké. Et de l'autre côté, dans le Grand Nord, l'autre flanc, vous arrivez donc à l'Est, Bertoua, Batouri, où M. Tiroma était. Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre cet Est ou l'Est où il était? Et c'est une grande zone minière, hein? Zone très potentiellement très riche, Bertoua, Batouri, Abomban, c'est des mines d'or et de tout ce que vous voulez, matières premières. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a de commun entre le Grand Nord, cette zone du Grand Est, on va dire le Grand Est maintenant parce qu'ils sont très nombreux, et Foumban, le côté Bamoun, ils sont musulmans. Ah, ça m'avait échappé un peu. Donc, c'est aussi un peuplement. Il fait bien, Missa Tiroma, de répondre comme ça. Vous voyez, quand on parle, on ne parle pas dans le vide. Il fait bien de répondre comme ça et d'attirer l'attention que oui, mais en parlant de peuplement, vous n'avez pas vu qu'il y a un peuplement qui est aussi basé qui a pour facteur de regroupement le facteur religieux. Et voilà, il y a été, mais il a été accueilli. Il a même dit, mais vous avez exagéré parce que maintenant, dans mon propre fief qui est Garoua au Grand Nord, bah, ils sont obligés de relever le défi. Je ne vois pas comment ils pourront relever ce défi parce que là, c'était déjà trop. Merci, merci, merci. Et voilà, avantage à Tiroma. Qu'est-ce que je peux ajouter rapidement? Issa Tiroma, elle a été ministre de la Communication. Oui, je vais ajouter quand même une ou deux choses. Parce que dans ces clientèles qui se présentent, Le problème avec les hommes politiques que nous élisons, c'est que nous n'avons pas les données infra-citoyennes, c'est-à-dire les données génétiques vraiment identitaires et le parcours des gens. D'où viennent, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire avant même la citoyenneté. Toutes ces données identitaires, j'ai envie de dire, infra-citoyennes, ne sont pas là et après on se retrouve avec des gens, bon, au demeurant, au passage, la région de l'Ouest votera forcément Issa Tiroma, parce que Monsieur Tiroma, il a sa fille qui est mariée là-bas. Donc lui, il a le Grand Nord, il a l'Est, il a l'Ouest. Déjà, les ralliements ne trompent pas. Même le parti de Monsieur Camteau est en train de passer de son côté. Ça fait que rien que il a déjà gagné. Il n'y a pas photo, il a déjà gagné, même si au Grand Nord, il y a un problème avec son frère rival qui veut lui mettre les bâtons dans les roues, mais peut-être qu'à un moment donné, il va se retirer parce que lui, il est venu faire la figuration. C'est l'ancien ministre Bello Bouba qui était déjà là 50 ans. Il n'est pas différent de Paul Biya, donc il ne va pas dire que. Et puis, il a été ministre du Tourisme. Comment se fait-il? Il y a un grand parc national dans le Nord, Ouaza. Un parc animalier, c'est on ne connaît pas. Et puis quand vous voyez des photos, vous dites, ben, il y a tout ça dans le Grand Nord. Et c'est hallucinant. Et ils sont en retard. Ils ont été trompés aussi, comme les anglophones. Hein. Donc les anglophones aussi pourraient voir d'un bon œil le Vautiroma, parce que les anglophones, ce sont les gens du sud-ouest où il y a une sorte de mini-révolution. Ils sont fâchés parce que aussi, voilà, ils sont en retard dans le développement. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut. Monsieur Chiroma peut leur parler parce qu'ils partagent le même sort. Donc, on termine en disant sur les candidats, c'est vrai, d'un côté, vous avez Monsieur Chiroma, de l'autre côté, vous avez aussi. Yoshua aussi, les deux qui se sont détachés, mais Yoshua aussi, il est trop neuf finalement pour être audible. Donc le fait d'être neuf est bien, mais trop neuf aussi. J'ai connu ça, les gens se posent trop des questions, des interrogations, est-ce qu'on vous connaît, on vous connaît pas. Chiroma, lui, il a quand même l'avantage d'être connu. Ce que j'avais dit, name recognition, mais au-delà de cela, c'est un acteur politique de premier plan depuis 1992, paraît-il, et aussi n'a pas cette histoire-là à lui opposer. Il est trop neuf et puis pas suffisamment audible, et peut-être qu'il a trop d'humilité aussi, et peut-être manque aussi d'une bonne campagne, enfin de bons conseillers en communication, je ne sais pas. Toujours est-il donc que les deux candidats arrivent de l'opposition. Monsieur Libi est disqualifié. C'est plus la peine, c'est pas son élection. Bon, Monsieur Kaptou, il veut s'imposer à tout prix, mais parce qu'il fait aussi son client, son marchandage. C'est dans leur esprit, hein, de toujours vendre quelque chose. Et puis après ça, les autres, ça compte pas trop. Ce que je voulais dire pour terminer quand même, c'est que quelqu'un a écrit, oui, ben, le vote ethnique, le vote n'est pas ethnique en Afrique. Vous savez, c'est toujours ce qu'on dit, ça dépasse les frontières, là, 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 là. Oui, d'accord. Mais le vote est d'abord ethnique parce que c'est l'histoire de l'Afrique qui veut que ce soit comme ça, que les territoires, les découpages territoriaux ou les regroupements des gens, le peuplement aussi, a fait que ça correspond en gros à une région. C'est comme ça parce qu'il y a des langues qui sont encore là, des langues, je ne sais pas comment on les appelle, vernaculaires, qui sont encore là. Et ce n'est pas comme la France où on parle français, ce n'est pas comme, même en Côte d'Ivoire, ou, je ne sais pas, non, en Côte d'Ivoire, même au Congo, où c'est le Lingala, même au Sénégal, où c'est le Wolof, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas d'autres sous-groupes ethniques qui font que les regroupements se sont faits naturellement. Donc le vote ethnique est incontournable, mais pas dans sa phase bête et méchante, dans sa phase peuplement, c'est tout. Et puis le vote religieux chez les musulmans, oh là là, c'est une donnée, comment j'allais dire, les musulmans, c'est des gens qui suivent les consignes, ils sont très disciplinés. Hein. Donc ce facteur religieux milite définitivement en faveur de monsieur Issa Tiroma. Je ne savais pas, parce qu'au Cameroun, on ne parle pas trop la question musulmane versus chrétien. Et effectivement, l'implantation des mosquées sur tout le territoire, à Yaoundé, partout, ce sont aussi ça vaut autant que toutes les implantations des bases, des partis dans les villages et partout, partout. Donc, avantage à Monsieur Tiroma, on attend la suite, mais il fait déjà l'objet de beaucoup d'attaques. Mais au moins déjà, c'est le paysage, hein, ça se dégage, la voix se dégage. Il n'y a plus que deux opposants crédibles contre Monsieur Biya. Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que le ministre de l'administration territoriale commence à dire les menaces, il y a à peine voilées, il ne faudra pas contester les élections. Si les élections sont contestées, ben, tout ça va s'appliquer durement. De toute façon, le délégué général à la Sûreté nationale avait déjà dit pas de vacances pour tout le monde, police et gendarmerie pendant 2 mois, il faut rester sur le qui-vive. Ça, ce n'est pas de bon augure parce que peut-être qu'eux, ils ont déjà prévu comment ils vont frauder et qu'ils savent très bien que les gens n'accepteront pas et qu'il peut y avoir des remous. Donc, ils sont peut-être prêts à tirer. C'est pas. Bon, pour le moment, on ne va pas. Mais ça jette un trouble quand même. Ça jette un trouble quand même. Et puis, bon, en attendant, on continue la fête à Issa Tiroma. Bien, amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde par Elise Bock, je vous dis à bientôt.